Épître aux Hébreux, donc du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 6. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, « Il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais au fils, il dit, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. » Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi tu restes le même et tes années ne finiront pas. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Alors le titre de ce message et le plan que je vous propose est un plan universel. Il pourrait s'adapter à énormément de messages, mais je trouve qu'il va particulièrement bien à celui-ci. J'ai pris comme titre de ce message ce verset de Matthieu 13, 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, cela commence par Dieu a parlé. Alors ce matin, nous verrons pourquoi il a parlé et qu'est-ce qu'il avait de si important à nous dire. Comment se fait-il que le Dieu créateur du ciel et de la terre, pour vous situer un peu le ciel, parce que la terre on connaît, le ciel, dans l'univers observable, c'est à peu près 30 000 milliards de milliards d'étoiles. Dans l'univers observable. Comment ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, pourquoi il s'est adressé à sa créature? Pourquoi le Dieu trois fois saint s'est adressé à l'homme pécheur? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Le message est si important que ça pour que Dieu s'adresse à nous? Sommes-nous aussi importants que ça pour lui? Assurément. Reprenons un petit peu l'histoire au commencement. Au commencement, on a l'illustration du commencement dans le psaume 8. Et ça reprend le chant que nous avons chanté tout à l'heure. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Au psaume 8, il est marqué « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Et là, le psalmiste réélève sa voix, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. tout ce qui parcourt les sentiers, que ton nom est magnifique. Voilà la relation que le Seigneur a établie avec sa créature au commencement des temps. Et puis il y a une rupture de la communication. Ce peu inférieur à Dieu, ce peu inférieur à Dieu, l'homme a voulu combler la distance qu'il séparait de Dieu. Et il a désobéi. De peu inférieur à Dieu, ça ne lui suffisait pas. Ça ne lui suffisait pas à l'homme d'avoir la domination sur tout ce que le Père avait créé. Il lui fallait être comme Dieu. Nous pouvons imaginer l'immense déception de notre Dieu lorsque sa créature a rompu la relation qu'ils entretenaient. D'ailleurs, après avoir désobéi, l'homme s'est caché. L'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et à partir de ce moment-là, la relation, elle a été corrompue, interrompue, rompue. Mais offensé, notre Dieu n'est pas resté silencieux. Nous le savons, nous parents, lorsque nous avons un enfant qui fait des bêtises, quel est le châtiment le plus cruel que nous pouvons infliger à nos enfants que de leur dire « Pah ! Après ce que tu m'as fait, je ne veux plus te voir, je ne veux même plus te parler. » Vous avez vu la tête, la tristesse de votre enfant lorsque vous lui dites ça ? Et nous, à notre niveau, lorsque vous écrivez une lettre à quelqu'un, et que cette lettre, elle vous est retournée sans avoir été ouverte. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus désapprobateur que le silence ? Une communication rompue par l'homme, mais Dieu n'a pas réagi comme nous l'aurions fait. Dieu offensé n'a pas abandonné sa créature. C'est l'homme qui aujourd'hui encore abandonne son Dieu sans mesurer les conséquences de ses actes. C'est l'homme qui renvoie les messages. C'est l'homme qui renvoie les lettres que Dieu lui adresse sans les ouvrir, sans écouter ce qu'il a à nous dire. Et aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, Dieu nous invite à être des lettres ouvertes, d'être la lettre, que la lettre du Seigneur soit écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, pour que les hommes ne puissent pas renvoyer la lettre du Seigneur sans l'avoir ouverte. Nous sommes des lettres ouvertes. Alors Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dès l'origine des siècles, il a parlé au père de la famille humaine, Adam, Noé, et plus particulièrement au peuple, au père du peuple d'Israël. Il a parlé non pas une fois, nous dit l'Épître aux Hébreux, non pas une fois, mais à diverses reprises. Non pas d'une seule manière, comme le font certains enseignants de l'éducation nationale, vous savez, qui réexpliquent toujours de la même façon, ce qui fait que les élèves ne comprennent toujours pas. Non. Nous avons un Dieu qui est pédagogue. Non seulement il répète plusieurs fois, mais il l'explique de plusieurs manières, par des visions, des songes, des missions d'anges, des apparitions, même face à face avec Moïse. Il a parlé sous forme d'ordre, sous forme de menaces, de promesses, de récits, de prophéties. Et quel a été le leitmotiv de notre Dieu ? C'est quoi son leitmotiv ? Revenez ! Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances. Revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, afin qu'il revienne à vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies. Revenez, réformez vos voies et vos œuvres. Revenez, détournez-vous des idoles. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Il s'est affirmé, malgré la désobéissance de ses enfants, il s'est affirmé être un père aimant qu'il souhaite que ses enfants reviennent à lui. Quelle a été la réaction des hommes ? Quelle a été la réaction des enfants ? À l'appel de leur père, à l'appel du Créateur, à l'appel du Dieu trois fois saint ? Non, je ne reviens pas. Je boude. Ils ont retourné le courrier. Oublie-moi, Seigneur, laisse-moi vivre ma vie. Pire, ils ont tué les prophètes, lapidé les envoyés. Jésus pleure devant Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu !» C'est une question de volonté. Seigneur, donne-nous le vouloir et le faire. Seigneur, donne-nous le vouloir revenir à toi. Mais tout ceci n'était qu'une préparation. L'Épître aux Hébreux nous dit que quand les derniers jours sont venus, quand sont venus les derniers temps, les temps de la révélation, alors Dieu, dit l'apôtre, nous a parlé par le Fils. On a cette parabole, vous savez, du maître de maison qui envoie ses serviteurs dans la vigne pour avoir rétribution. Et à chaque fois, les serviteurs se font tuer par les vignerons. Et le maître de maison, il ne lui reste qu'une solution. Une seule. Enfin, le maître de maison envoya son fils vers les vignerons en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il parlé ? Dieu nous a parlé, pourquoi nous a-t-il parlé ? Il nous a parlé pour nous offrir une possibilité de réconciliation. Et pour nous offrir la possibilité de réconciliation, nous avions nécessité d'une chose, d'un médiateur. Une relation, lorsqu'elle est rompue, elle ne peut être établie que sur la base de trois éléments fondamentaux. Premièrement, la repentance d'un côté. Il y en a un qui reconnaît qu'il a été trop loin. De l'autre côté, il faut qu'il y ait le pardon. Et enfin, comme la communication est rompue, il y a la nécessité d'avoir un médiateur pour faire la liaison entre l'offenseur et l'offensé. Lorsqu'il y a une rupture dans une relation, lorsque la communication est rompue, lorsque nous laissons le téléphone décrocher, il y a nécessité qu'un tiers vienne nous dire « Raccroche ! Arrête de faire la sourde oreille ! Arrête d'être aux abonnés absents ! Écoute !» Imaginons les meilleurs amis du monde qui se fâchent. Et vous allez en voir un et vous lui dites « Allez, va voir ton ami ! Allez, va, vas-y ! Va te réconcilier avec lui ! Je sais qu'il est prêt à te pardonner, à ce que tout redevienne comme avant !» Quelle réaction vous avez ? Ah bon ? Bizarre ça. Comment il peut me pardonner après tout ce que je lui ai fait subir ? Tout ce que j'ai dit de lui ? Comment je l'ai maltraité ? Il veut se réconcilier ? C'est bizarre. Et puis toi, pourquoi il ne vient pas me le dire lui-même ? T'es qui toi pour parler à la place de mon meilleur ami ? Et puis, je me réconcilie. Mais bon, c'est assez. C'est fêlé. Il va y rester quelque chose. Rien ne sera plus comme avant. Et toutes ces questions s'entendent parfaitement lorsqu'il y a réconciliation. La première question pose la question de la motivation de celui qui a subi l'offense. Qu'est-ce qui le pousse au pardon ? La deuxième, quelle est la légitimité du médiateur ? Et la troisième, celle de la réparation, de la justice. Si ces trois questions ne reçoivent pas de réponse satisfaisante, il subsistera quelque chose. Il y aura, même si il y a une pseudo-réconciliation, il y aura de l'amertume. Avec mon ami, nous nous sommes réconciliés, mais ce sera plus comme avant. Tu comprends comment avoir confiance après ce qui a été fait, quoi. Ainsi, la communication est rétablie, mais la relation est vidée de sa substance. En Christ, nous avons pleinement la réponse à ces trois questions. Pleinement. Pourquoi Dieu souhaite que nous soyons réconciliés avec lui ? Qui nous a-t-il envoyé pour parler à sa place ? Est-ce que cet envoyé est légitime ? Oui. Et est-ce que cette relation peut être rétablie pour faire en sorte que tout soit comme avant ? Tout soit comme à l'origine des temps ?
Oui.
Pourquoi Dieu nous adresse-t-il la parole ? Dieu souhaite rétablir la relation. Il est à l'initiative de la réconciliation. Il nous assure de son pardon et il accomplit sa justice. Sa motivation, l'amour. Dieu nous a aimés le premier. Dieu a un message d'amour qu'il souhaite nous communiquer. Nous en avons besoin. C'est un besoin vital, son message d'amour. Car en ce qui concerne notre relation avec Dieu, il s'agit ni plus ni moins d'une question de vie ou de mort. 1 Timothée 2,4 Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le seul qui nous permet d'avoir accès au Père. Le seul. Sur quoi se fonde la légitimité de Christ lorsqu'il nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, nous avons toute la substance dans la lettre aux Hébreux. Toute la substance de la légitimité de Christ est dans le passage que nous avons lu. Dieu a établi Christ héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Le Fils est l'héritier. Cela fait de lui l'enfant légitime du Père. Tout lui revient, tout a été fait pour lui et par lui. Il est le possesseur de toutes choses et par conséquent, s'il est le possesseur de toutes choses, il est notre maître et seigneur. Colossiens 1,16 « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Ça dépasse les 300 000 milliards de milliards d'étoiles qui, elles, sont visibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Christ est le reflet, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Dieu est lumière, or la lumière a son rayonnement qui nous l'a fait percevoir. Tel est pour nous le Fils dans sa relation avec le Père. En lui parviennent jusqu'à nous les rayons de la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'éclat de ses perfections et de sa majesté. Ce matin, voyez-vous briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu ? Ou faites-vous partie de ces incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ? Nous qui sommes en Christ, le Seigneur nous demande de faire luire le visage de Dieu sur nos faces, pour que, à notre tour, nous puissions refléter Christ qui reflète la gloire de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit que le Fils est l'empreinte de sa personne. Christ est l'empreinte, ça vient du grec, il est le caractère de la personne de Dieu. Il a la même substance, comme l'empreinte d'un sceau montre jusqu'en dans les moindres détails le sceau lui-même. Ainsi, Christ porte tous les traits de la nature du Père. Il les reproduit, il en est la forme parfaite. Calvin disait, le Fils ressemble au Père comme la monnaie ressemble à la matrice du coin duquel elle a été frappée. Christ n'est donc pas seulement le révélateur de Dieu, il en est la révélation, la manifestation réelle. Christ nous dit dans Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Ça ne suffit pas comme légitimité, il vous en faut encore. Le Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Soutenir signifie maintenir. Maintenir l'existence après avoir créé. Pour Dieu, ces deux actes ne font qu'un. La conservation du monde est une création continue. Le monde va mal. Nous sommes d'accord. Le monde va mal. Si, si, il va mal. Mais je ne cesse de m'étonner qu'il n'aille pas plus mal. Quand je vois le cœur de l'homme, quand je vois qu'il a été capable de lapider, de tuer les prophètes, lapider les envoyés, crucifier notre Christ, je me dis qu'il peut aller très loin, l'homme, très loin. Et je suis étonné qu'il n'aille pas plus mal. Et je loue le ciel. Vous avez songé à ce que serait notre monde s'il n'était pas maintenu par la parole de Dieu ? Vous avez imaginé ce que serait notre monde si, allez, on va dire une nanoseconde, tous les chrétiens du monde arrêtaient de prier ? Qu'est-ce qui s'est passé le 13 juillet 77 ? 13 juillet 77, à New York, Nueva York. Il y a eu une panne générale d'électricité pendant 25 heures. 25 heures, panne générale d'électricité.
Et les gens sont restés tranquilles chez eux, au calme, se reposer.
Pas du tout.
Pas du tout.
Les pompiers de la ville eurent à combattre 1037 feux. Et la police a arrêté 3000 personnes pour pillage et émeute. 25 heures. Pas mal. Pas mal. On ne dit pas tous ceux qui n'ont pas été arrêtés, bien sûr. Veillez et priez. Veillez et priez. Nous sommes exhortés à veiller et prier. Et si, parmi vous, ce matin, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre Dieu ou l'ont entendu, mais se disent, mais c'est pas possible, le monde va mal. Où est Dieu dans tout ça? Si les désastres du monde sont pour vous une motivation de repousser l'offre de Dieu, sachez que ce monde ne tient que parce que Dieu suspend son jugement jusqu'à ce que chacun de nous ait pu prendre part à la grâce qu'il nous offre. Dieu suspend son jugement pour donner la possibilité à quiconque d'être sauvé. Mais son jugement est là, en suspens. Et Dieu, lorsqu'il voit la misère sur ce monde, il fait comme nous, mes frères et sœurs. Il pleure. Le Fils, enfin, a fait la purification des péchés. Cet accomplissement de la révélation de Dieu n'a pas eu lieu seulement en parole. Dieu a fait par lui-même la purification de nos péchés, car il s'est offert pour nous à la mort à la croix. 1 Pierre 3,18 « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Après cela, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est rentré dans la gloire, s'étant assis à la droite de la majesté dans les cieux très hauts. Si bien que malgré son humiliation et dans la nature même où il fut humilié, il est et demeure infiniment au-dessus des anges. Dieu a souverainement élevé son Fils. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Pas seulement sur terre, mais aussi dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a salut dans aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Maintenant, voyons ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Nous avons compris sa motivation. Il veut que nous soyons réconciliés avec lui, que nous soyons sauvés par son Fils. Mais il nous dit, attention, pour ne pas se tromper, il faut poser les bonnes questions et écouter les réponses du Seigneur. Il se trouve que il arrive aux hommes de préférer les anges au Fils de Dieu. Les anges occupaient une grande place dans le judaïsme du 1er siècle, qui les avait hiérarchisés, classés. Proches de Dieu, ils reçoivent de sa part des missions spéciales et importantes. Le rôle des anges n'est à ne pas négliger, bien sûr. Ils ont délivré des messages de la part de Dieu, ils ont révélé la loi, ils adorent et ils prient Dieu, ils pourvoient aux besoins du peuple, ils protègent le peuple, ils guident le peuple, ils exécutent la volonté de Dieu, ils punissent même les ennemis de Dieu. Intéressant quand même. Et donc nous avons, comme Juan Diego l'a introduit, ces Hébreux qui, convertis, disaient « Ah, les anges, c'est quand même bien, quoi. C'est bien les anges, ça. Hein ?» Le buisson ardent, c'est bien. Il y a un marketing des anges. J'ai regardé un petit peu la littérature qui sortait, je vous livre quelques titres pour voir que nous ne sommes pas très très loin des Hébreux des siècles passés. Alors vous trouvez en littérature « Communiquer avec son ange gardien, quand et comment le rencontrer ?» Intéressant ça. Les signes de l'au-delà, des messages de vos anges pour guider vos choix de vie. Important ça, hein, les messages de vos anges. La Bible des anges, écrit, inspiré par les anges de la lumière. Vous avez aussi être à l'écoute de vos anges, comment travailler avec les anges, communiquer, guérir avec les anges. Et à côté de ça, on a Christ.
Et alors là, on est à des années-lumière du marketing publicitaire. Né dans une étable,
dans une petite ville.
Quand il arrive triomphant à Jérusalem, c'est sur un âne. Pas terrible quand même, hein. Si un concepteur publicitaire faisait ça aujourd'hui, je ne sais pas s'il décrocherait le marché. Philippiens 2,7 nous dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Mais nous étions prévenus de ce qui allait arriver. Ésaïe nous l'avait dit. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni la beauté, ni l'éclat pour attirer notre regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le passage de l'Épître aux Hébreux nous invite à revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de son Fils, au sujet des anges ? Dieu a parlé, nous n'avons pas su écouter. Il y a confusion. Nous avons des oreilles et nous sommes sourds. Nous ressemblons aux idoles que nous nous fabriquons. Alors, lorsqu'on regarde l'Épître aux Hébreux que nous avons lu sur Dieu a dit de son Fils, Dieu a dit des anges, il nous amène à nous poser les questions fondamentales. Il faut remettre les choses à sa place, les choses à leur place. Dans un monde où les maris démissionnent, où les enfants commandent et où les patrons sont corrompus, rien n'est à sa place. Première question, à qui devons-nous l'adoration ? Et pourquoi ? Qui a fondé le monde ? À qui appartient-il ? Qui est assis à la droite du Père Créateur ? Qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir ? Une seule réponse. Qui ? Le Christ. Amen. Si Christ n'est pas au centre et l'unique objet de notre adoration, alors nous nous rendons coupables d'idolâtrie. Vous savez, quand Jean, en Apocalypse 19, tombe aux pieds de l'ange, il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. L'ange lui répond, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et il lui dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Deuxième question que nous devons nous poser. Deuxième série de questions fondamentales que nous devons nous poser. Sous quelle justice nous plaçons-nous ? Justice des hommes ? Injustice des hommes ? Ou justice divine ? Dans l'épître que nous avons lu, au verset 8, il est dit « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ange, le Fils, Jean nous dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors, ce matin, est-ce que nous avons la réponse à cette question ? Qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification ? Un ange ? Non, notre Seigneur Jésus-Christ. Quant aux anges, attention. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Paul nous dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Pour ceux qui ont connu l'ancienne boisson, le Canada Dry, son nom sonnait comme un nom d'alcool. Ça ressemblait à de l'alcool, ça avait la couleur de l'alcool et ce n'était pas de l'alcool. Eh bien, méfiez-vous des ministres de justice. Ils sont beaux, mais il n'y a justice que dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, nous exhorte. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Attachons-nous à ce que le Seigneur nous dit. Dieu nous parle, sachons l'écouter. Vous connaissez cette réplique du serpent à l'origine? Dieu a-t-il vraiment dit? Hein? Alors, pour vous diriger, vous voulez quoi? Ça ou ça? C'est une boussole. Elle était là quand je suis arrivé. Oui, je sais pas. Donc, au centre, l'autorité du Christ, sa mission. Le Christ, c'est excellence et exclusivité. Nous avons vu ce matin, dans l'Épître aux Hébreux, ce que le Fils est dans son rapport avec Dieu, dans sa relation avec l'univers créé. Nous avons vu l'œuvre que Jésus a accomplie sur la terre. Nous avons vu le triomphe de Christ dans les cieux. Il est la seule médiation valide et parfaitement suffisante entre nous et Dieu. Il faut rejeter toute autre médiation concurrente, même la plus prestigieuse. Christ, c'est l'excellence et l'exclusivité. Dans Colossiens 2, chapitre 9, c'est une tautologie que Paul nous propose. Car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Imaginez, plénitude, c'est déjà plein. C'est déjà bien plein, la plénitude. Eh bien, toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et Colossiens, Paul nous met en garde quelques versets plus loin en nous disant qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Alors, l'exhortation de l'auteur au chapitre 2 est sans équivoque. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut offert par le Fils? Qui deviendra notre sauveur si nous ne voulons pas de Christ? Qui? Qu'offrirons-nous à Dieu pour l'expiation de nos péchés si nous méprisons le sang du calvaire? Où chercherons-nous la lumière et la vie si nous repoussons les appels et les grâces de l'Esprit de Christ? Ou si seulement nous les négligeons? Alors pour conclure ce matin, mes frères et sœurs, amis, visiteurs, peut-être qui entendaient la parole de Dieu pour la première fois, Dieu a parlé. Et Dieu parle encore. Il a donné son Fils, mort et ressuscité, pour que nous ayons la vie. Savons-nous l'écouter? Sommes-nous comme Samuel lorsqu'il répondit « Parle, Éternel, parle, ton serviteur écoute !» Alors, je m'adresse ce matin à ceux qui ont déjà répondu à l'appel. Quelle est notre responsabilité? Quelle est notre mission? Nous avons aujourd'hui une mission de transmission. Une mission qui dépasse la mission. Si aujourd'hui nous savons le message qui a été adressé à nos pères, c'est parce que les pères ont transmis à leurs enfants la parole de Dieu. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Aujourd'hui, nous avons une mission de transmission. Autre chose, mes frères et sœurs, nous avons vu, nous sommes exhortés par cet épître à avoir un ministère de réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné un ministère, celui de réconciliation. D'un point de vue pratique, nous sommes venus ce matin offrir à Dieu l'adoration de nos lèvres et nos louanges. Et le Seigneur nous dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ce ministère de réconciliation, si nous voulons parler et être crédibles lorsque nous parlons de la réconciliation de Dieu avec les hommes, alors regardons les racines d'amertume que nous pouvons avoir avec un voisin, un oncle, une amie d'enfance, et allons-nous réconcilier. Allons-nous réconcilier. Enfin, je m'adresse ce matin à ceux qui ont entendu les prophètes. Peut-être une maman qui les a envoyés au catéchisme, peut-être un prêtre qui leur a expliqué que Dieu est amour, que son fils est mort pour nous, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Oui, toutes ces paroles sont prophétiques. Et peut-être ce matin, il y a parmi nous des personnes qui disent « ça me suffit, je le sais ça me suffit ». Mais ces paroles ne donnent pas la vie. Ce n'est que par le Fils que nous avons la vie. Alors Dieu nous a, à tous, aujourd'hui nécessairement déjà parlé. À tous. Qu'avons-nous écouté ? Qui avons-nous écouté ? Et qu'en avons-nous fait ? Prions.